Turgeon, la parole de ce lundi 17 novembre 2025, lundi de la 33e semaine du temps ordinaire, année impaire. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Sainte Élisabeth de Hongrie, religieuse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Élisabeth de Hongrie de reconnaître et de vénérer le Christ dans les pauvres. Accorde-nous, à son intercession, de servir avec une inépuisable charité ceux qui sont dans le besoin et dans l'épreuve. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Première lecture. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Lecture du livre du martyr d'Israël. Au chapitre 1er, du 10e au 15e verset, jusqu'au 64e verset. En ce jour-là, de la descendance de successeur d'Alexandre le Grand, surgit un homme de péché, Antiochos Épiphane. Fils du roi Antiochos le Grand, il avait séjourné à Rome comme otage, et il devint roi en l'an 737 de l'Empire grec. À cette époque surgirent en Israël des hommes infidèles à la loi, et ils séduisirent beaucoup de gens, car ils disaient « Allons, faisons alliance avec les nations qui nous entourent. En effet, depuis que nous avons rompu avec elles, il nous est arrivé beaucoup de malheurs. » Ce langage parut judicieux et quelques-uns dans le peuple s'empressèrent d'aller trouver le roi. Celui-ci leur permit d'adopter les usages des nations. Ils construisirent un gymnase à Jérusalem selon la coutume des nations et ils effacèrent les traces de leur circoncision, réunirent l'alliance sainte, s'associèrent aux gens de nations et se revendirent pour faire le mal. Le roi Antiochos prescrivit à tous les habitants de son royaume de ne faire désormais qu'un seul peuple et d'abandonner leurs coutumes particulières. Toutes les nations païennes se conformèrent à cet ordre en Israël. Beaucoup suivirent volontiers la religion du roi, offrirent de sacrifices aux idoles et profanèrent le sabbat. Le 15e jour du 9e mois, en l'année 145, Antiochos éleva sur l'autel de sacrifice l'abomination de la désolation et, dans le ville de Juda autour de Jérusalem, ses partisans élevèrent des autels païens. Ils brûlèrent de l'encens aux portes des nations et sur place tous les livres de la loi qu'ils découvraient. Ils les jetaient au feu après les avoir lacérés. Si l'on découvrait chez quelqu'un un livre d'alliance, si quelqu'un se conformait à la loi, le décret du roi le faisait mettre à mort. Cependant, beaucoup en Israël résistèrent et eurent le courage de ne manger aucun aliment impur. Ils acceptèrent de mourir pour ne pas être souillés par ce qu'ils mangeaient et pour ne pas profaner l'alliance sainte. Et de fait, ils moururent. C'est ainsi que s'abattit sur Israël une grande colère. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, au 18e chapitre, du 35e au 43e verset. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » ceux qui marchaient en tête les rabrouaient pour le faire taire, mais lui criait de plus belle, « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on les lui amène. Quand il se fit approcher, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vie. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vie, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vie, et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chers internautes, Élisabeth de Hongrie, une princesse. Mariée très tôt, elle est restée veuve à 20 ans. Mais elle ne voulait pas se remarier. C'est alors qu'elle sera malmenée par sa belle famille. Élisabeth de Hongrie nous fait penser à toutes ces mamans, toutes ces femmes qui souffrent, qu'on fait souffrir dans le cadre familial. Elle est passée par là. Élisabeth de Hongrie, c'est aussi celle qui a pensé aux pauvres. Comme elle ne voulait pas se remarier, elle va devenir religieuse, appartenant au tiers ordre des franciscains. Elle va mettre ses biens au service des pauvres. Elle est considérée comme patronne des pauvres, patronne notamment de ceux qui travaillent dans les boulangeries. Elle est patronne des nécessiteux. Dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du premier livre des martyrs d'Israël, livre de Maccabée, premier livre de Maccabée, premier chapitre, du 10e verset jusqu'au 64e verset, texte entrecoupé. La vie est un combat parfois rude. Il faut savoir lutter pour préserver son identité, identité chrétienne, identité religieuse. C'est le combat que Élisabeth de Hongrie avait mené dans la cour. Elle voulait rester fidèle à son idéal de vie et elle a su imposer son idéal de vie face à ceux qui voulaient l'égarer. De même aussi dans la première lecture, certains juifs, pas tous mais certains, refusent de brader leur identité religieuse. C'est l'époque grecque. Nous l'avons entendu la semaine passée, c'était les livres de la sagesse, rédigés dans ce contexte où la culture gréco-romaine était dominante. Et les livres de Maccabée est rédigé dans le même contexte. Il y a la culture grecque qui prédomine. On a tendance à imiter les Grecs pour montrer qu'on est évolué. Ce qui n'est pas grec est dépassé, démodé. Il faut imiter les Grecs, parler les Grecs, prier le Dieu des Grecs, les divinités païennes des Grecs, pour montrer qu'on est évolué. Mais certains Juifs refusent cette option-là et restent fidèles à leur identité, les combats de la vie. Ils restent fidèles à leur identité jusqu'au bout. Ils seront des martyrs. Voilà pourquoi les livres de Maccabée, c'est les livres des martyrs d'Israël, hein, c'est un livre ou deux livres qui font éloge de ces martyrs qui ont mené le bon combat en restant fidèles à leur identité. Les combats de la vie, c'est aussi lutter pour que votre vie puisse s'améliorer, pour évoluer. Si dans la première lecture, la lutte porte sur la préservation de son identité devant des influences culturelles des païens. Savoir lutter pour préserver son identité, dans l'évangile, il faut lutter pour une vie meilleure. Il faut lutter pour que on puisse s'épanouir davantage sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur le plan social. Il faut lutter pour améliorer. améliorer sa propre vie, ses conditions de vie. C'est le cas de cet aveugle. Il n'a pas de nom. Dans d'autres textes, on parle de Bartimée. Mais aujourd'hui, dans la version de Luc, cet aveugle n'a pas de nom. Un aveugle mendiant, assis au bord de la route. Un aveugle. Trois choses à retenir dans cet évangile. D'abord, l'identité de cet aveugle. Qui est-il? Pourquoi il n'a pas de nom? De deux, sa prière. Et puis, la troisième chose, c'est l'attention que Jésus lui prête. Un aveugle mendiant, assis au bord de la route. L'aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Nous en avons certains très très attachés à la radio de la Vierge Marie qui certainement sont en train de suivre cette méditation. Cet évangile vous est dédié. Il est possible que vous soyez guéri. Il est possible que vous puissiez voir. Mais même ceux qui ont le désir pour voir, parfois nous sommes aussi aveugles. Aveugles dans certaines circonstances de la vie où on ne voit plus clair. Ça arrive comme cela. Nous avons la clarté dans la vie dans l'œil. Je ne vois plus clair. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Par où commencer devant telle situation, devant telle preuve. Comment faire pour m'en sortir? Je ne vois pas de solution. Souvent nous le disons, je ne vois pas. Comment faire? Je ne vois pas de solution. Je ne vois pas comment m'en sortir. Je ne vois pas par où commencer. On est un peu comme un aveugle. On ne sait plus par où commencer face à des situations qui sont parfois difficiles. Et donc, cet aveugle rappelle un peu la situation de chacun de nous. Mais au moins, il faut écouter. Il faut écouter. Ça, c'est l'une de ses caractéristiques. Il ne voit pas, mais il écoute. Il n'écoute pas n'importe quoi. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. Il est quand même curieux. Il est ouvert. Dans la vie, il faut s'ouvrir, il ne faut pas s'enfermer. Quand on s'enferme dans son petit coin, c'est difficile de trouver de solution au problème. Il faut s'ouvrir, savoir partager, savoir s'informer. Lui, il demande, mais qu'est-ce qu'il y a? On lui apprit que c'était Jésus, le Nazaréen, qui passait. On lui apprit que c'était Jésus et il saisit l'occasion. En fait, c'est Jésus qui est la solution à tous nos problèmes. Il n'y a que Jésus seul qui a la solution à tous les problèmes. Nous, les humains, nous sommes limités et souvent très limités. Mais Jésus, lui, a la solution à tous nos problèmes. Vous qui ne voyez plus, vous qui ne voyez pas par où commencer, vous êtes comme un aveugle, vous ne savez pas comment faire par rapport à votre situation. Eh bien, adressez-vous à Jésus. La deuxième chose à retenir, la prière. Pour s'adresser à Jésus. La première chose, c'est que cet aveugle rappelle la situation de chacun de nous. Il y a des moments où nous sommes comme des gens qui ne voient plus clair dans leur vie, dépassés par les événements. On ne voit pas par où commencer, on ne voit pas comment résoudre tel autre problème. La deuxième chose, la prière. Jésus, fils de David, prend pitié de moi. Décidément, c'est une prière que Jésus aime entendre. C'était déjà la prière de lépreux. Les 10 lépreux se présentent devant Jésus en disant « Jésus, maître, prends pitié de nous. » Et cet aveugle, c'est la même chose. Sa prière, c'est « Kyrie eleison ». Donc, demandez la compassion de Jésus. « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » On a commencé à les rabrouer. C'est un personnage qui est un peu, qui est très audacieux, ambitieux, un personnage qui est persévérant. Il persévère dans les biens. En fait, il nous montre comment est-ce que nous devons nous comporter devant les problèmes dans la vie. Comme je disais tout à l'heure, l'ouverture. Il s'informe. Qu'est-ce qu'il y a? On lui dit c'est Jésus qui passe. Alors il saisit l'occasion pour adresser sa prière à Jésus. On les rabrouait. Mais lui criait de plus belle. C'est-à-dire que la vie, c'est un peu cela. La vie, c'est un peu cela, s'ouvrir aux autres et ne pas se décourager. Parce que le regard des humains sur vous, le regard de ton prochain sur toi, c'est un regard parfois qui est très pessimiste. Parfois, nous pensons que la situation de ceux qui vivent avec nous ne changera pas. Nous avons déjà condamné certaines personnes à une vie sans relief, à une vie difficile. Elle va mourir comme ça, il va mourir comme ça. Nous avons déjà condamné peut-être même d'autres personnes non-voyantes, malvoyantes. Nous les condamnons à rester comme telles. Nous pensons qu'ils vont mourir comme cela. Il n'y a pas d'espoir. Voilà pourquoi ils sont en train de les rabrouer. Ça ne sert à rien de déranger les maîtres. Tu vas mourir comme ça. Ta situation ne changera pas. Ça, c'est un peu cela. Il n'y a que vous-même qui devez croire que ça peut changer dans votre vie. Ceux qui vivent avec vous peut-être pensent que c'est fini, c'est déjà tard. Ça ne changera plus dans votre vie. Vous allez mourir comme ça. Mais vous-même, vous devez croire que ça peut changer. Humainement parlant, c'est peut-être impossible. Mais avec Dieu, avec Jésus, ça peut changer. Ça va changer et ça doit changer. Vous devez y croire. Lui, il croyait. Ceux qui le voyaient ne croyaient pas qu'un jour il pouvait voir. Il croyait qu'il resterait mendiant toute sa vie. Mais lui, il croyait qu'il y aura des changements. D'autres personnes ne croyaient pas. Ne vous laissez pas intimider par ce que les gens disent de vous. Ne vous laissez pas intimider. Vous devez vous-même croire que votre vie peut changer. La prière, c'est la deuxième chose, comme je disais. Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Cette personne est très constante. On l'a rabroué, mais il crie de plus belle, fils de David, prends pitié de moi. Il ne change pas de prière. Il est fidèle à sa prière. Fils de David, prends pitié de moi. On va le rabrouer, mais il continue à crier, fils de David, prends pitié de moi. La fidélité à la prière. La persévérance dans la prière. Et la meilleure prière, c'est justement celle-là. Seigneur, aie pitié de moi. Ça doit être votre prière, ma prière, notre prière, tout au long de cette journée, dans notre vie en général, devant les difficultés. Dire simplement, fils de David, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. C'est-à-dire demander la compassion du Seigneur. Et la troisième chose, c'est la compassion de Jésus. Jésus ne nous regarde pas comme ceux qui sont autour de nous. Ceux qui sont autour de nous, souvent, nous condamnent, vous condamnent. Ils pensent que c'est fini pour vous. Mais Jésus, son regard, c'est un regard de compassion. Et c'est ce regard-là que Jésus pose sur vous aujourd'hui, ce matin. Vous qui nous suivez dans des hôpitaux, dans des prisons, vous qui nous suivez dans l'est du pays, dans des contextes assez difficiles, eh bien, sachez que le regard de Jésus sur vous, c'est toujours un regard de compassion. Jésus ne regarde pas pour condamner, il ne regarde pas pour juger, il regarde pour avoir pitié, il regarde pour compatir, qu'il vous regarde comme il avait regardé cet aveugle et qu'il vous apporte dans votre vie les changements dont vous avez besoin. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde sous sa constante protection. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.